Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui encore un des dimanches qui se rajoute entre le 23e dimanche après la Pentecôte et le dernier dimanche après la Pentecôte, et aujourd'hui c'est le 5e dimanche après l'Épiphanie qui se rajoute. Il est un évangile avec beaucoup d'applications pratiques pour notre vie d'aujourd'hui. C'est l'évangile que l'on trouve en Saint Matthieu chapitre 13, l'évangile sur la zizanie. Voyons un petit peu ces textes liturgiques de ce 5e dimanche après la Pentecôte. Premier point à noter, me semble-t-il, c'est que dans la collecte, dans nos raisons, il est bien dit que nous demandons à notre Seigneur Jésus-Christ d'être toujours notre protecteur et notre défenseur. On demande à notre Seigneur Jésus-Christ d'être notre protecteur et notre défenseur quand les choses vont bien, mais aussi quand les choses vont mal. Il est notre protecteur et notre défenseur quand on vit tranquillement en état de grâce, sans beaucoup de difficultés ni de tentations. Mais il est aussi notre protecteur et notre défenseur lorsque nous sommes en grand danger de péché, lorsque les tentations s'amoncellent. Et on peut même aller plus loin que ça, on peut dire que notre Seigneur Jésus-Christ est toujours notre protecteur et notre défenseur, même quand ses enfants vivent en état de péché mortel. Dans le sens qu'il est l'unique arche de salut. Il est l'unique personne qui peut nous ramener à lui. Donc, cette raison nous explique qu'il ne faut jamais, jamais, jamais nous décourager. Même si je constate que le champ de mon âme a été envahi par l'ivraie, même si je constate que je ne peux pas enlever cette ivraie parce qu'elle est mélangée au bon blé, et au bon blé, on n'arrive pas à voir où est le blé, où est l'ivraie, notre Seigneur Jésus-Christ reste et restera jusqu'à ma mort, et même après, si je suis au purgatoire ou au ciel, mon protecteur et mon défenseur. Il y a malheureusement que les âmes qui sont en enfer, qui elles sortent en quelque sorte de la miséricorde du bon Dieu. Le bon Dieu ne peut plus exercer sa miséricorde sur les âmes qui sont en enfer parce qu'elles sont sorties de son plan d'amour de façon définitive. Dans l'épître que la Sainte Église a choisi, l'épître aux Colossiens, chapitre 3, il y a aussi un texte important qui peut servir d'introduction à l'évangile dont je vais parler après. Un texte plein justement qui demande l'exercice de la miséricorde à l'égard du prochain. Nous le disons tous les jours, il ne faut pas que ce soit simplement un mot. Il faut que ce que nous disons tous les jours dans notre Père passe dans notre vie de chaque jour, mes bien chers frères. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Sous-entendu, si je ne pardonne pas à ceux qui m'ont offensé, je ne peux pas demander au bon Dieu de me pardonner mes propres péchés. Et saint Paul insiste lourdement dans sa lettre aux Colossiens. Je vous lis ce texte qui est splendide. Frères, Dieu vous a choisi, sanctifié, choyé. Faites-vous donc un cœur compatissant, soyez bon, modeste, doux, patient. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez mutuellement s'il surgit entre vous quelques différends. Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous à votre tour. Mais par-dessus tout, ayez la charité, car elle réalise l'unité et la perfection des autres vertus. Que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ par ce texte de saint Paul? Notre Seigneur Jésus-Christ ne nous demande pas simplement de pardonner à ceux qui nous ont offensés, mais nous demande aussi d'être un instrument de paix. Soyons des instruments de paix, mes bien chers frères. C'est triste à dire, je m'excuse d'en parler souvent, mais c'est une chose qui, à mon avis, gêne énormément la cause de la tradition célibacantiste. Il nous faut pratiquer la charité. Si nous sommes comme des monstres incharitables qui ne cherchent qu'une seule chose, ça se mordre les uns les autres, ce qu'on voit malheureusement très souvent sur les réseaux sociaux, sur les différents sites internet, où on est capable, et que les catholiques de tradition sont capables que d'une seule chose, c'est de se manger les uns les autres. Comment voulez-vous que le bon Dieu puisse nous utiliser comme des instruments pour convertir les âmes? Est-ce que vous êtes un instrument de paix? Est-ce que je suis un instrument de paix? Est-ce que lorsque je suis présent dans une pièce, les gens autour de moi se sentent poussés vers notre Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce qu'au contraire, dès que je suis dans une pièce, les gens pensent autour de moi, oh là là, il est encore là, celui-là, quel dommage, on va encore devoir se battre parce qu'il va commencer à mordre tous ceux qui sont autour de lui. Oui, mes bien chers frères, c'est une notion qui a malheureusement complètement disparu ou presque dans les milieux de la tradition. Est-ce que je sais être un instrument de paix? Est-ce que les gens qui viennent me voir derrière moi peuvent voir notre Seigneur Jésus-Christ? Derrière ce que je dis, peuvent entendre notre Seigneur Jésus-Christ? Derrière ma façon de me comporter avec mes enfants, avec mon épouse, avec mon époux, est-ce qu'ils peuvent voir notre Seigneur Jésus-Christ? Je vais vous raconter une petite histoire vraie. Je ne vais pas donner le nom par respect pour la famille. C'était des anciens fidèles à moi. Ils ont une grosse épreuve dans leur vie. Ils avaient un homme, un fils, qui était atteint d'une dégénérescence musculaire extrêmement forte. Il est mort très jeune à l'hôpital. Je ne me rappelle plus exactement quel âge il avait, autour de 19, 20, 21 ans. Et il était à l'hôpital, il avait toute sa tête, mais ce pauvre jeune homme, qui était un très profond catholique, ne pouvait pratiquement plus rien faire par lui-même. Il était totalement dépendant parce qu'il avait pratiquement plus de muscles, tout fondé, si vous voulez, avec sa dégénérescence musculaire. Et il était donc totalement dépendant, et dans sa chambre d'hôpital, avant sa mort, il avait deux infirmières qui s'occupaient de lui. Et il avait remarqué que ces deux infirmières étaient tout le temps en train de se disputer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un jour, c'était quelques heures avant sa mort, il a fait venir ces deux infirmières. Elles étaient de chaque côté de son lit. Et il a demandé aux infirmières, prenez ma main. Donc chaque infirmière de chaque côté de son lit a pris sa main. L'une a pris la main droite, l'autre a pris la main gauche. Ensuite, il a demandé à ces deux infirmières, il leur a dit, vous allez maintenant croiser mes mains sur ma poitrine. Et les infirmières ont obéi. Elles ont croisé les deux mains du jeune homme sur sa poitrine, puisqu'il était incapable de le faire lui-même. Et par la force des choses, les deux mains de ces deux infirmières se sont touchées. Il les a gardées dans cette position et il leur a dit, maintenant vous allez me promettre une chose avant que je passe de l'autre côté, que je meure. Je veux que vous me promettiez que vous allez arrêter de vous disputer. Elles ont été sidérées par cette demande. Je ne sais pas ce qu'elles ont répondu, je n'étais pas là. Mais quelques heures après, ce jeune homme est mort. Et les deux infirmières ont mis leur point d'honneur à aller assister à son enterrement. Et c'est par l'une d'elles qu'on connaît cette histoire, parce qu'elle l'a répétée à sa maman, la maman du jeune homme qui me l'a répétée également. Et les deux infirmières, à la suite de ça, ont arrêté de se disputer, par respect pour cette charité incarnée extraordinaire qu'elles avaient trouvée dans le cœur de ce jeune homme qui perdait tout, apparemment, humainement parlant, à 20 ans ou 21 ans. Il était instrument de paix. C'est un exemple tout simple. Mais si vous et moi, mes bien chers frères, nous sommes des instruments de paix partout où nous passons, nous pouvons faire le même travail avec notre Seigneur Jésus-Christ. Passons maintenant à l'évangile du jour. Saint Matthieu, chapitre 13. Cet évangile est connu, je vous en rappelle le thème. Le royaume des cieux peut se comparer à l'homme qui a semé dans son champ du bon grain. Il a semé du blé. Et pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint semer de l'ivraie par-dessus le blé et s'en alla. Le blé poussa, les épis se formèrent et la mauvaise herbe apparut aussi. Les ouvriers s'en allèrent alors trouver le propriétaire et lui dirent, Maître, n'est-ce pas du bon grain que vous avez semé dans votre champ? Pourquoi se fait-il qu'il y pousse de l'ivraie? Il leur répondit, C'est mon ennemi qui a fait cela. Les ouvriers proposèrent alors, Voulez-vous que nous allions arracher l'ivraie? Non, dit-il, en l'arrachant, vous risqueriez de déraciner aussi le blé. Laissez-les donc pousser l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Le moment venu, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes pour la brûler, mais le blé, récoltez-le et mettez-le dans mon grenier. Il y a plusieurs choses à tirer à mon avis de cet évangile. D'abord, la première chose qu'il nous faut remarquer, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ laisse toujours une chance jusqu'au dernier moment. Vous voyez, il ne brûle pas l'ivraie immédiatement. Il laisse les deux plantes se côtoyer. Et c'est ce qui se passe pour nous. Nous sommes obligés de vivre dans un monde dans lequel nous, catholiques, nous sommes constamment en train de côtoyer des gens qui sont des bandits sur le plan moral, c'est l'ivraie. Mais le bon Dieu ne va pas brûler cette ivraie immédiatement. Il veut laisser une chance de conversion à cette ivraie. Laissez-le donc pousser l'un et l'autre jusqu'à la moisson. C'est la première chose qu'il faut remarquer. Dieu donne une chance. Tant que nous sommes ici-bas sur la terre, tant que nous sommes dans le temps, nous avons une chance de conversion. Parce que pour pouvoir se convertir, rappelez-vous, je l'ai expliqué souvent en sermon ou en conférence, il faut trois choses. Il faut d'abord l'usage de notre liberté, il faut du temps et il faut la grâce du bon Dieu. Ici-bas, nous avons l'usage de notre liberté, nous avons du temps, nous avons la grâce du bon Dieu. Donc on peut se convertir. Même si on se convertit comme l'ouvrier de la dernière heure, si vous voulez, juste avant la mort, du moment que nous sommes en état de grâce, le jour de notre mort, eh bien le bon Dieu récoltera dans son grenier le bon grain que représente notre âme. La deuxième chose qu'il nous faut comprendre à partir de cet évangile, c'est que même si Dieu donne une dernière chance, il ne donne pas une dernière chance tout le temps. À un moment, la mort intervient. Et par la mort, c'est le passage du temps à l'éternité. Une fois qu'on est dans l'éternité, il n'y a plus de mouvement possible, donc plus de changement possible. Il n'y a pas de passage de la puissance à l'acte quand on est dans l'éternité. Donc une fois qu'on est dans l'éternité, c'est terminé. Donc la deuxième chose que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit par cet évangile, c'est qu'il y a un jugement qui nous attend, tous. Même si le bon Dieu peut délayer ce jugement jusqu'à notre mort, en nous donnant davantage de temps avant que le jugement n'arrive, il y a des gens qui vont être jugés après 20 ans sur la terre, il y a des gens qui vont être jugés après 50 ans, 60 ans, 80 ans sur la terre. Le bon Dieu peut attendre, être parfois très patient avec certaines personnes, mais le jugement arrivera toujours un jour ou l'autre. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu, pardon, qu'il viendra comme un voleur. Il viendra sans prévenir au milieu de la nuit. Et il nous demandera à ce moment-là de rendre compte de notre gestion. Je pense qu'on peut très facilement appliquer cette parabole à notre âme. Ce chant, ce n'est pas simplement le chant apostolique de l'Église. Ce chant, c'est aussi notre chant particulier, notre chant personnel. C'est notre âme. Donc, nous avons une âme qui est un champ, et dans cette âme, Dieu a semé du bon grain, avec le baptême qui a fait de nous des enfants de Dieu. Le bon Dieu a mis du grain dans notre champ, il a mis des talents dans notre champ, il a mis des qualités particulières, personnelles, dans notre champ, et il nous demande évidemment pardon, à ce que ces qualités progressent, que ces talents soient utilisés, soient rendus en double au propriétaire du champ, c'est-à-dire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il est temps peut-être de faire un examen de conscience de ce champ dans quelques semaines, à la fin du mois, au début du mois de décembre en fait. Ce sera la fin de l'année liturgique et le début d'une année liturgique nouvelle avec l'arrivée d'un nouveau cycle, avec le temps de l'Avent et l'arrivée de Noël. Posez-nous cette question. Dans quel état est mon champ? Est-ce que mon champ est bien cultivé? Est-ce que mon champ a été soigneusement débarrassé des pierres, des limaçons, des mauvaises herbes qui envahissent tout? Est-ce que le blé spirituel qui a été planté par le maître dans mon champ, est-ce qu'il peut se développer normalement? Ou est-ce qu'au contraire, il ne peut rien faire parce qu'il est mélangé à la mauvaise herbe, parce que le blé est tombé soit sur le chemin, a été piétiné par les passants, soit est tombé sur le bord du chemin, mais il manque d'humidité, le blé n'a pas pu se développer, soit il est même tombé au milieu des épines, et les épines, c'est-à-dire les plaisirs du monde, ont tout étouffé. Est-ce qu'il est tombé? dans le champ. Et est-ce qu'il donne du 30%, du 60% ou du 100%? Si le bon Dieu attend de ma graine 100%, je dois donner 100%. 60%, c'est pas assez pour moi. Donc, est-ce que j'ai de livrer dans mon champ? Est-ce qu'il y a dans mon champ des graines de péché mortel? Est-ce qu'il y a dans mon champ, dans mon âme, est-ce qu'il y a des occasions prochaines de péché mortel que je garde, qui vont se développer la première occasion? Est-ce que je garde une occasion prochaine, volontaire, de péché mortel qui peut se développer et donner un rejeton complètement mauvais qui va empoisonner tout le champ? N'oublions pas qu'il suffit d'un rejeton de péché mortel, un seul. Un seul rejeton de péché mortel peut suffire malheureusement à ce que mon âme soit jugée inculte par notre Seigneur, soit jugée comme négative par notre Seigneur. N'oublions pas qu'à la fois notre Seigneur Jésus-Christ nous donne du temps jusqu'au dernier moment pour changer d'âme, pour changer notre pour remettre la charité dans notre âme, mais si j'ai un seul péché mortel non pardonné sur ma conscience le jour où je passe du temps à l'éternité, c'est le jour du jugement, tout ce que j'ai fait de bien auparavant, tous mes mérites antérieurs, tout est effacé, tout disparaît. Il ne reste plus que le péché. Pourquoi? Parce que le péché est incompatible avec la charité de notre Seigneur. Puisque après la mort, il n'y a plus de changement, je ne peux plus effacer ce péché après ma mort, avant ma mort, oui, mais pas après ma mort. Et donc, le bon Dieu ne peut pas accepter et tolérer, évidemment, d'avoir dans son paradis une âme qui est viciée par le péché mortel. Malheureusement, il sera obligé de dire à cette âme, éloignez-vous, maudit de moi, et allez au feu éternel préparé pour vous, pour Satan et pour ses anges. N'oublions pas que si je constate qu'il y a dans mon champ, dans le champ de mon âme, de l'ivraie, il ne faut pas attendre pour l'arracher. Car plus j'attends, plus l'ivraie va s'enraciner, plus le péché mortel va s'enraciner. Comme une petite mauvaise herbe qu'on tire, qui est apparue pendant la nuit, on tire dessus et elle sort immédiatement de la terre, on la brûle. Mais si on attend, si on visite son champ une fois par semaine, c'est beaucoup plus difficile d'enlever les mauvaises herbes parce qu'elles ont beaucoup grandi, les racines se sont enfoncées et la mauvaise herbe a pris de la force, c'est beaucoup plus difficile de les arracher. Mais si je visite mon champ une fois tous les mois, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Parce que tout est mélangé entre le bon grain et l'ivraie. Et n'oublions pas encore une fois que le bon grain, s'il est mélangé à l'ivraie, n'a plus aucune valeur le jour de ma mort. Je peux avoir un champ magnifique, avec du beau grain, du beau blé splendide, qui a donné beaucoup d'épis. Il suffit qu'il y ait un plant d'ivraie qui n'ait pas été arraché au moment de la mort. L'ivraie représente le péché mortel. Un seul plant d'ivraie, rien n'est tolérable pour Dieu. Dieu ne tolérera pas, parce qu'il est Dieu, ne peut pas tolérer l'existence d'un seul péché mortel dans une âme au moment où cette âme passe en jugement devant lui. Alors, posons-nous cette question, si je suis en état d'ivraie, s'il y a trop d'ivraie dans mon âme, qu'est-ce que je dois faire? Comment déraciner? Mais évidemment, c'est du bon sens élémentaire. Le premier élément, c'est la confession. Il nous faut nous confesser, préparer une bonne confession générale. Peut-être avant le début de l'année liturgique. La nouvelle année liturgique, le début de l'Avent. Je vous ai déjà dit, je vous redis que s'il y a parmi vous des personnes qui souhaiteraient avoir un bon examen de conscience, celui que j'utilise pour les retraites, dites-le moi par email et je vous enverrai à votre adresse mail, je vous adresserai cet examen de conscience pour que vous puissiez, là où vous êtes, préparer une bonne confession générale. Donc première étape, c'est la confession générale, pour ensuite pouvoir vous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ, vous rapprocher de la communion à un prêtre non unacum. Il faut aussi étudier, mes bien chers frères, il faut nourrir son intelligence pour vivre en état de grâce. Quelqu'un qui n'étudie jamais va se dessécher comme cette graine de bon blé qui est tombée au milieu des ronces ou sur le côté du chemin où il n'y a pas assez d'humidité, cette graine va mourir. Donc je dois étudier. Si je passe beaucoup de temps à préparer et à mettre sur le site internet dont je m'occupe d'Anne Marie deux cours, le mercredi un cours d'exégèse et le vendredi un cours sur la somme théologique de Saint Thomas d'Aquin, c'est pas pour rien. Ces cours sont à vos dispositions sur le site internet d'Anne-Marie. N'hésitez pas à y aller, étudier, travailler ces cours pour justement alimenter votre âme. N'oublions pas que les Français des années 60 sont tous devenus des modernistes parce qu'ils ont arrêté de travailler. Ils ont arrêté d'étudier leur catéchisme. Ils se sont crus tranquillement sur un tapis roulant qui les menait au ciel. Ils n'ont pas compris que le tapis roulant s'était arrêté en route. Il y a évidemment encore un très bon moyen d'arriver à se remettre dans l'amitié du bon Dieu. Et c'est de suivre une retraite. N'oublions pas que sur le site internet d'Anne-Marie, encore une fois, vous avez sur la page d'accueil du site une note qui vous ramène, un onglet qui vous ramène à un calendrier des retraites. Donc là, moi, en l'année 2019, je vais prêcher, si Dieu veut, 6 retraites, tout proche de l'endroit où je vis, donc à la limite entre le Tarn et l'Aveyron, au nord d'Albi, dans un magnifique moulin ancien, complètement restauré, que je peux louer à un prix très raisonnable. Alors je vous préviens que la retraite de Semaine Sainte est pleine, la retraite de l'Ascension est aussi pleine. Par contre, j'ai encore de la place pour les 4 autres retraites, 18 février au 23 février, 18 mars au 23 mars, 23 septembre au 28 septembre et 14 au 19 octobre. Là, j'ai de la place pour ces 4 retraites, les 2 autres sont pleines. Eh bien, chers frères, ne vous découragez pas encore une fois. Passons par la Très Sainte Vierge Marie. Si je ne sais pas comment enlever et livrer de mon champ, demandons à la Très Sainte Vierge Marie, qui est une très bonne jardinière, de faire l'examen de mon champ. Elle va passer avec moi, elle va me prendre par la main, elle va m'amener dans le champ de mon âme, et elle va regarder avec moi ce qui se passe dans les sillons. Et puis elle va me faire remarquer, attention là, il y a un petit bout d'ivraie, une petite plante d'ivraie qui commence à pousser. Arrachez-moi ça tout de suite. Et là aussi, il y a quelque chose. Et là, votre blé, il me semble un peu riquiqui. Votre blé, il me semble un petit peu délétère. Il me semble pas très fort. Il faudrait rajouter un petit peu de bonne terre pour que ce blé puisse se développer et donner vraiment des beaux épis. Suivez les conseils de la Sainte Vierge. Et passez par elle, mes bien chers frères. Passons par elle, c'est valable pour moi bien sûr, si nous sommes tous un petit peu découragés à cause de ces difficultés, passons par la Très Sainte Vierge Marie pour qu'elle nous aide à bien commencer cette nouvelle année liturgique qui arrive bientôt, bien préparer déjà une bonne confession générale peut-être de notre vie, d'une partie de notre vie, car c'est le plus beau des cadeaux que vous puissiez présenter par la Très Sainte Vierge Marie à l'enfant Jésus le jour de Noël. Par la naissance de la crèche, dans la crèche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.